je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez l'oiseté !
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashisho Kiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Ah, salut à tous! Vous écoutez bien Montaigne Oisetech sur le 102.2. Eh oui! Grosse émission aujourd'hui, grosse émission de Montaigne Oisetech, rap, littérature et révolution sur la plus rebelle des radios. Alors, pourquoi une grosse émission? Parce que je reçois aujourd'hui le grand coiffeur. Oui, coiffeur, vous entendez bien. Ziglig Coiffetou. Bonjour, monsieur Coiffetou.
Bonjour.
Oui, alors, monsieur Ziglig Coiffetou est l'auteur d'une thèse pratique de renommée internationale sur la coiffure du 19e siècle. Et plus particulièrement sur ce que l'on appelle, depuis qu'il l'a conceptualisée et brevetée, la coupe Chopi. C'est-à-dire une coupe de cheveux directement inspirée du philosophe allemand Schopenhauer, Arthur de son prénom. Et expliquez-nous, monsieur Ziglig Coiffetou, un peu en quoi consiste cette coupe de cheveux.
Le concept de base est une aération axiale sur le crâne. Cependant, il est très important de laisser l'arrière de la tête légèrement couverte de cheveux. Un détail primordial est important de respecter. Il permet de distinguer la bonne et la mauvaise coupe Chopi. C'est le volume des deux parties latérales du crâne, afin de donner une importance chouettale.
Oui, tout à fait, je perçois. Et c'est pour ça qu'on voit Schopenhauer avec voilà, ses deux touffes de cheveux de part et d'autre du visage. Et votre intervention dans l'émission, je tiens à le préciser, est totalement d'actualité, puisque je sais que vous recevez en ce moment de nombreuses célébrités dans votre salon d'excellence à Paris, Rossano Ferretti, hein, c'est ça, votre salon. Et est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, monsieur Ziglig Coiffetou, qui vous avez reçu récemment?
J'ai une démarche de vulgarisation de cette coupe auprès des jeunes, et on peut notamment citer le célèbre Djibril Cissé.
Ah oui, d'accord, oui, je vois, c'est d'où l'originalité de ces coupes en général. Ouais. Et donc c'est là, en fait, un peu la force de votre travail, monsieur Coiffetou, hein, si j'ai bien compris, c'est cette vulgarisation qui s'inspire d'un réel socle de culture philosophique que vous êtes venu enrichir aujourd'hui à Montaigne Oisetech. Et vous êtes venu l'enrichir parce que aujourd'hui, celui qui va nous présenter l'émission n'est rien d'autre que le magnifique, le célèbre, le beau, hein, le beau, le très beau, mais vous pouvez pas voir parce qu'on est à la radio. Le beau Eugène Ionegro, grand spécialiste de ce philosophe à la coupe si particulière, Arthur Schopenhauer. Bonjour monsieur Ionegro.
Bonjour monsieur Tug, bonjour Ziglig et bonjour Bertrand.
Exact, il y a aussi Bertrand Fibien qui est là dans les studios pour nous apporter sa précieuse science. Donc alors monsieur Arthur Ionegro, Eugène Ionegro pardon, ah, ouais. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un peu de ce Schopenhauer?
Oui, bien sûr, on est là pour ça. Et ben oui, si vous voulez, je peux commencer par quelques éléments biographiques.
Oui, allez-y.
Allez, donc bon, il y a pas mal de choses à dire. Donc, avant toute chose, voilà, vous avez souligné sa capillarité un petit peu aléatoire, mais oui, qui fait son charme. Mais bon, il faut noter avant toute chose que Schopenhauer est un personnage qui est très ambivalent, puisqu'il est tantôt décrié comme antipathique, antisémite, misogyne, grincheux, misanthrope ou réactionnaire, au point que le contemporain Christian Bonnet en fasse le philosophe méprisé par excellence. Mais il est également, il est aussi salué, vénéré comme l'éducateur par excellence, c'est ainsi que Nietzsche le désignait dans un premier temps. Moi, je le désignerais comme le génie par excellence.
L'éducateur,
c'est-à-dire, c'est vraiment celui qui l'a éveillé à la philosophie, Nietzsche dira. Enfin, c'est vraiment l'auteur qui l'a le plus marqué, dont la lecture l'a le plus marqué, l'a le plus éveillé à la philosophie.
D'accord.
Mais voilà, il est aussi salué comme un philosophe sensible, littéraire, qui a une belle plume. Et donc, voilà, on va retracer un petit peu ensemble quelques éléments biographiques. Alors, Arthur Schopenhauer est né le 22 février 1788 à Danzig. Donc 22 février,
c'est bientôt son anniversaire. D'où encore une fois l'extrême actualité de...
Eh oui, toujours. Voilà, donc 22 février 1788 et il est mort le 21 septembre 1860 à Francfort. Son père, Heinrich Floris Schopenhauer, était, il faut le noter, un riche commerçant. Et sa mère, Johanna, finira en fait par devenir l'un des écrivains les plus en vogue de l'Allemagne du début du 19e siècle, côtoyant notamment des gens comme Goethe dans les salons qu'elle tient, et qu'elle tient de plus en plus fréquemment, une fois installée à Weimar après la mort de son époux en 1806.
Mais à l'époque où Schopenhauer, voilà, naît, pendant son enfance, elle n'est pas encore un écrivain célèbre.
Pas tout à fait, mais elle écrit déjà et elle devient de plus en plus célèbre. Et effectivement, c'est un petit peu étonnant pour nous parce qu'elle est complètement tombée dans l'oubli. Mais ses œuvres complètes sont parues de son vivant. Elle côtoyait Goethe et vraiment, c'était une écrivaine très en vogue.
Une femme qui pèse.
Une femme qui pèse. Ouais. Alors, voilà, ça c'est pour le très très général. On pourrait parler de, je pense, de deux épisodes marquants dans la jeunesse de Schopenhauer. L'un des premiers, qui a été souligné par les biographes, est en fait le voyage qu'il fit dès l'âge de 9 ans, sous l'impulsion de son père qui voulait qu'il soit, comme lui, commerçant, et par conséquent qu'il s'attelle à l'apprentissage des langues. Donc, dès 9 ans, le jeune Arthur est envoyé apprendre le français en Normandie, au Havre plus exactement, où il passe 2 ans. Et c'est même là qu'il rencontre, à notre connaissance, son seul véritable ami. Parce que, bon, on verra que c'était quelqu'un qui goûtait assez peu la compagnie
spécial,
des hommes.
Spécial, quoi.
Donc, au passage, je peux souligner le nom très sympathique de son ami, qui s'appelle Antime de Blésimer. Voilà, et il lui a écrit une lettre à la fin de sa vie. On pourra peut-être en reparler plus tard. Bon, en tout cas, de ce voyage en France... pays magnifique, n'est-ce pas? Il revient bilingue.
Et il éveille à la philosophie.
Voilà, oui, tout à fait. Parce qu'il revient bilingue, mais il a aussi, en plus, à l'âge de 9 ans quand même, de 9 à 11 ans, appris l'anglais, le latin et le grec. Et effectivement, on considère que c'est à partir de ce voyage que sa curiosité s'éveille et qu'il va peu à peu se mettre à dévorer littéralement la bibliothèque de ses parents. Puisqu'il va lire Voltaire, Rousseau, les poètes latins et grecs, et bientôt, Platon et Kant. Donc après ce voyage, le jeune Arthur manifeste la volonté de suivre son père dans tous ses déplacements, puisque son père, vous en doutez, voyage beaucoup
à travers la commerçant, c'est
voilà,
ça.
Ouais, tout à fait. Mais en fait, il s'avère qu'un conflit s'opère assez vite entre le père et le fils quand ce dernier manifeste l'envie de faire des études carrément littéraires et philosophiques cette fois, d'en faire sa vocation. Et son père ne le comprend pas, puisqu'il largue qu'il finira pauvre et qu'il n'aura aucune connaissance du monde concret. Mmh. Et en fait, il lui pose d'une certaine manière un ultimatum, parce qu'en 1803, il lui propose de choisir entre l'accompagner, lui et sa mère, dans un grand tour d'Europe, ce que Schopenhauer voudrait tout à fait, puisqu'il adore voyager, ou rester en Allemagne pour entreprendre des études littéraires.
Ah ouais, c'est un peu le dilemme de bâtard.
Voilà, le dilemme de bâtard, c'est un dilemme cornélien, n'est-ce pas? Donc en fait, voilà, et finalement, Arthur choisit d'accompagner ses parents et séjourne avec eux en France, en Angleterre et en Italie durant 1 an et demi. Et en fait, durant ce voyage, Schopenhauer tient un carnet de voyage. Je l'ai jamais eu entre les mains personnellement, mais les biographes considèrent qu'il a vécu en fait un traumatisme qui est fondateur pour sa philosophie lors de la visite du bagne de Toulon, dans le quartier des Galériens, où il voit des prisonniers enchaînés les uns aux autres et travaillant toute la journée. Et en fait, il écrit dans son carnet que c'est là une condition qui est pire que la mort pour lui. Parce qu'en un sens, c'est un peu comme s'il avait, c'est comme s'il avait eu Sisyphe, vous savez, et son rocher sous les yeux, et qu'il avait fait la découverte de ce qu'on a ultérieurement appelé l'absurde. Et bon, je le souligne au passage.
C'est-à-dire Sisyphe, c'est ce mec qui va pousser son rocher toute sa life,
ça s'arrête jamais, effectivement. Et oui, c'est
une sorte de métaphore de la souffrance et de l'absurdité du monde. Quoi.
Exactement, c'est la souffrance permanente et qui n'est même pas interrompue par la mort, quoi. Et voilà. Et en fait, c'est d'autant plus important que le commentateur Clément Rosset, je ne sais pas si vous connaissez, c'est philosophes contemporains les plus en vogue, voilà, et que je me suis d'ailleurs attelé à discuter dans ma thèse d'État,
oui,
que exact. Vous connaissez tous, n'est-ce pas?
Donc, qui se vend à centaines de millions de milliards d'exemplaires.
Je n'ai pas à me plaindre. Clément Rosset qualifie Schopenhauer précisément de philosophe de l'absurde. Donc voilà, on en reparlera. Mais son sentiment, c'est que finalement, la condition de ces galériens qu'il observe à Toulon, c'est la condition humaine même. On s'essouffle et on souffre pour rien dans cette vie.
Ah, donc pas cool, quoi.
Pas très cool, non. Oui. Schopenhauer est presque unanimement qualifié de philosophe pessimiste. Le philosophe pessimiste par excellence. On pourra discuter ça, mais c'est vrai qu'il y a bien sûr une part de vérité. Ok, on peut passer au second épisode fondateur. Donc cet épisode qui est un épisode tragique et qui le touche plus directement cette fois-ci, c'est le 20 avril 1806, la mort de son père. Alors il meurt dans des circonstances un petit peu mystérieuses. D'après ce que j'ai compris, il chute du toit de sa maison en fait.
Ouais, c'est bizarre. Enfin, à part s'il réparait le toit, mais vu qu'il était très riche, je sais pas s'il réparait
voilà.
le toit.
Voilà. Non, oui, c'est très étrange. Et Arthur Schopenhauer est justement persuadé qu'il s'agit d'un suicide. Et petit à petit, encore plus grave, il est persuadé que sa mère est responsable de ce suicide.
Ah ouais, c'est chaud.
Ouais. Et oui, il lui pardonnera jamais en fait. Les clashs vont monter.
À partir de ce moment-là, il parle plus à sa daronne.
Pas tout à fait. Non, il continue à lui parler, mais c'est au bout d'un moment viendra une rupture définitive. Ouais. Et d'ailleurs, on pourra en reparler, mais l'un des aspects les plus thug de Schopenhauer, c'est sa grande misogynie en fait, hein, qui rappelle à bien des égards certains textes de rap. Et beaucoup de biographes sont persuadés que sa grande misogynie est en grande partie due à sa mère, quoi, qu'il voulait se venger de sa mère un petit peu dans ses textes. Alors bon. Voilà, quoi qu'il en soit, la mort du père, quoi qu'elle affecte beaucoup le jeune homme, lui permet de mettre en tout cas un terme à ses études commerciales qu'il avait fait par engagement auprès de son père, et il va pouvoir se consacrer à ses études classiques. Donc sa mère vend son fonds de commerce et déménage à Weimar pour se consacrer, elle, à ses activités littéraires. Et c'est vraiment là qu'elle commence à devenir très connue.
La mort du père, elle aussi, ça la libère un peu.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a des soupçons un petit peu aussi, en partie. Hein. Donc, parce que voilà, elle devient rapidement une figure littéraire de premier choix, tenant régulièrement, comme j'ai dit tout à l'heure, des salons et y recevant des personnalités telles que Goethe, qui était quand même, il faut le souligner, le plus grand écrivain allemand en ces temps, hein, qui est unanimement reconnu comme tel. Et voilà, la colère de Schopenhauer envers sa mère ne cesse d'empirer, estimant surtout qu'elle n'éprouve aucune tristesse pour la mort de son époux. Parce que voilà, elle s'amuse, elle tient des salons pendant que son père vient de mourir, mais voilà, tout de suite après. Et donc à ce propos, dans ses manuscrits de jeunesse, on peut lire à propos des mondanités de sa mère, faisant directement suite à la mort du père. Ma mère s'amusait juste après. Je cite de mémoire, hein, mais c'était quelque chose comme ça. Ma mère s'amusait pendant que le corps de mon frère était encore chaud. Voilà l'amour des femmes. Avec un point d'exclamation.
Voilà, les femmes. Il a l'âme mauvaise, quoi.
Ah ouais, ouais. Ah, il a un peu. Ouais. Donc voilà, comme je l'ai dit, beaucoup considèrent que se confier avec la mère explique pour partie la grande misogynie de Schopenhauer qui, je crois, est aussi nourrie par son propre système philosophique. Et bon, ça, on y consacrera une leçon en fin d'émission.
Ok.
Si vous êtes d'accord.
Tout à fait. Voilà. Non, c'est intéressant parce que vous avez fait une petite attaque comme ça, le rap, les femmes, misogynes, etc. Ouais. On va se justifier, on va s'expliquer.
C'est pas une attaque, c'est un constat. C'est un aspect thug, là. Bon, oui, on pourra en discuter. Alors, où en étais-je? Oui, donc voilà, en tout cas, après cet épisode, Arthur s'inscrit à l'université de Göttingen avant de partir pour Berlin où il va suivre les cours de Fichte. Je sais pas si vous connaissez Fichte, donc c'est l'un des plus grands philosophes de l'époque en fait, mais bon, il a été un peu supplanté par Hegel qui était un peu dans la même mouvance, ce qu'on appelle l'idéalisme allemand. Et voilà, en fait, Fichte, donc le professeur de Schopenhauer à Göttingen, va devenir l'un de ses plus grands adversaires philosophiques avec justement un autre idéaliste qui s'appelle Schelling et Hegel. Qui est beaucoup plus.
Ah d'accord. Mais Hegel est encore dans le game à l'époque.
Ah oui, Hegel c'est le game absolu, c'est lui qui domine tout, c'est le patron, il pose ses couilles sur la table.
Ouais, alors que Schopenhauer lui veut défier un peu le
voilà, Schopenhauer. Ouais, bon, à cette époque, il est encore un peu timide hein, parce que il fait ses armes mais petit à petit, il va vraiment les défier, il va vouloir faire des battles. On va voir que ça va pas trop marcher.
Bon,
en tout cas, il quitte Berlin en 1813. Parce qu'il y a une épidémie de choléra à l'époque à Berlin. Oui, j'ai oublié de le noter.
Comme quoi, à l'époque, il s'éclatait pas non plus, quoi.
Non, pas trop. Hein. Donc voilà, il quitte Berlin et en fait, il va se consacrer, durant le moment où il quitte Berlin, à sa thèse de doctorat, qui a été publiée sous le titre, tout à fait croustillant, de la quadruple racine du principe de raison suffisante.
Ouais, tout à fait pompeux aussi.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, ce livre est assez important parce qu'il en recommande la lecture dans la préface de son opus magnum, Le monde comme volonté et représentation. J'imagine que vous avez déjà entendu ce titre. C'est un livre très fameux, donc qui est paru en 1819 et c'est vraiment le livre qui nous intéresse.
Ça me fait penser à Nietzsche dans un de ses prologues, le prologue de. je sais plus quel ouvrage où il dit si vous avez pas lu mes ouvrages d'avant, testez pas celui-là, vous comprendrez rien. Je crois que c'est dans la généalogie de la morale au tout début. Mais il dit si vous avez pas lu ce que j'ai fait avant, de toute manière ça sert à rien que vous lisiez ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même démarche.
Avant
d'avoir la prétention de vous confronter à ce que j'ai de plus pertinent en moi, voilà, lisez ce que j'ai fait avant.
Ouais, j'ai pas souvenir de quel livre c'est de Nietzsche, mais effectivement, Schopenhauer dans la première préface du Monde comme volonté représentation dit avant de lire ce livre, il y a des prérequis. Il faut avoir lu Platon, il faut avoir lu Kant, il faut avoir lu les Védas, c'est-à-dire les écrits hindous, parce que ça l'a vraiment beaucoup influencé, et il faut avoir lu ma thèse.
Il s'adresse pas à tout le monde, quoi.
Mais en fait, c'est pas si nécessaire que ça. On comprend quand même très bien le monde, c'est très clair, sans forcément avoir lu tous ces livres. Bon, d'accord. C'est quand même mieux d'en avoir une petite connaissance, mais c'est pas obligé d'avoir tout lu non plus, quoi.
Ok.
Donc voilà. Donc bon, maintenant, avant de parler de cette thuguitude proprement dite, on peut évoquer que l'insuccès de son livre, Le Monde comme volonté et représentation, parce que oui, ça n'a eu aucun succès quand c'est paru. Hein. Le succès arrive très tardivement, dans les années 1850, et Schopenhauer en a vraiment beaucoup souffert en fait, parce qu'il était persuadé d'avoir trouvé la vérité du monde, la clé de l'énigme. Ouais, il a quand même conduit un bouquin de 1500 pages, quoi, en deux tomes en plus. Donc c'est la déprime. Oui, il a fait une profonde dépression parce que comme j'ai dit, persuadé d'avoir découvert la clé d'énigme du monde, il ne comprend pas cette indifférence du public à son égard. Et en fait, il se fait fort à ce moment-là d'accuser la dégénérescence philosophique de son époque, et notamment ce qu'il appelle l'hégélianerie ambiante et le mépris des professeurs de philosophie. Ouais, il y a des textes assez fameux. Il y en a notamment un qui s'appelle Contre la philosophie universitaire, donc qu'il a écrit quand même à la fin de sa vie, mais où il clash à mort tous les profs de philo, quoi. Et il dit je préfère être dévoré par des vers plutôt que d'être récupéré par des universitaires qui fausseront tout à fait ma doctrine, quoi. Donc voilà, en tout cas, sa déprime et son attaque en règle de la philosophie universitaire est d'ailleurs accentuée par le fait que, chargé de cours à l'université de Berlin après sa thèse, il doit démissionner au bout de 6 mois, faute d'étudiants. Et bon, c'est vrai que ça fait un peu loser, notamment quand on sait que s'il n'avait pas d'étudiants, c'est notamment parce qu'il avait choisi de faire cours à la même heure que Hegel pour le défier. Et voilà, en fait, lui, il avait 6 étudiants et Hegel en avait 250.
J'aime bien la démarche, c'est
présomptueux. Oui. Ça rappelle un peu Mélenchon à Hénin Beaumont, quoi.
C'est courageux.
C'est courageux. Et bon, et cette déprime, enfin, parce qu'elle est accentuée par beaucoup de choses, malheureusement, elle est accentuée par ses échecs amoureux avec deux Carolines. Donc, Caroline Jagerman dans un premier temps, qui était, je crois, les deux sont actrices, Caroline Jagerman et Caroline Meudon, mais la première était mariée, je crois, et la seconde était une femme très libre, de petite vertu, on pourrait dire à l'époque, peut-être, je sais pas. Mais bon, en fait, la première s'est montrée indifférente à lui, vraiment, et la deuxième, il a eu une aventure avec elle, mais elle refuse de partir avec lui, elle veut rester, et il devient de plus en plus jaloux, et il pète un câble. Et donc, voilà, on peut considérer qu'elle joue aussi sans doute un rôle dans la misogynie, quand on sait qu'il écrit dans ses carnets cette fameuse phrase: quant aux femmes, je leur étais très favorable si seulement elles avaient voulu de moi.
Oh, c'est chaud.
Oui, on vous a fait écouter cette chanson Caroline parce que Schopenhauer, notre loser du jour, a pris deux râteaux par deux Carolines différentes. Ouais. Si c'est bien ça, monsieur Yonegro.
Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je crois que le morceau de notre cher Solar parle aussi d'un petit peu d'un échec amoureux. Hein, si,
Oui, ambiguïté. On sait pas trop finalement s'il parle de sa pote ou de soi-même. Ouais, j'ai écouté mille fois le truc, j'ai jamais réussi à savoir s'il parlait d'une pote à lui qui partait avec un mec ou s'il parlait de son ex qui partait avec un nouveau mec. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il est question de Caroline.
Ouais, effectivement. Bon voilà, hein, beaucoup d'échecs au début de sa vie, une dépression due à son insuccès, grandissant, ses échecs. Mais bon, il faut quand même noter que la consécration, une grande consécration quand même, viendra. Elle viendra très tardivement quand même, puisque c'était un article du journal anglais le Westminster Review qui contribue à le rendre célèbre. Donc c'est à ce moment-là que les lecteurs se tournent massivement quand même hein, sur le livre cité par l'article, son dernier en date qui est intitulé Les Parerga et Paralipomena, donc qui sont publiés en 1851 et l'article date de 1853. Bon, pour faire très schématique, Les Parerga, c'est en gros plein de petits essais qui sont réunis en un très gros bouquin et Schopenhauer le disait lui-même dans ses lettres, c'est un peu sa philosophie vulgarisée au possible. Il disait c'est dans un langage un peu grossier. Bon, ce qui est notamment très célèbre dedans, c'est les aphorismes sur la sagesse dans la vie. Bon, là c'est des petits aphorismes avec des phrases très percutantes comme ça. Et bon, ce qui a contribué malheureusement à le rendre célèbre, c'est son terrible essai sur les femmes. C'est un essai dans lequel bon voilà, il fait preuve d'une misogynie terrible avec bon je cite des phrases plus loin dans mes prochaines leçons, mais bon, c'est un essai d'une violence inouïe et ce qui a aussi contribué.
C'est ça qui l'a fait connaître à travers le
grand public.
Le journal a parlé d'abord de ses livres sur les femmes.
Il parle du gros essai, et dedans, il cite plus particulièrement l'essai sur les femmes, et aussi son essai contre la philosophie universitaire dont je parlais tout à l'heure.
Donc il n'est pas question de le monde comme volonté, etc.
Non, pas cette époque, mais il est question des aphorismes sur la sagesse. Et en fait, bon, il faut quand même noter que ce livre-là, Les Parerga, Schopenhauer voulait que ce soit un petit peu un résumé du monde comme volonté, dans un langage un petit peu plus vulgaire, on pourrait dire. Donc, même s'ils n'en parlent pas directement, le succès des Parerga fait que les lecteurs vont vite se tourner vers le monde comme volonté représentation.
D'accord.
Et que, voilà, il va assez vite connaître le succès. Donc voilà, mais 1853, Schopenhauer est déjà, il a plus de 60 ans, quoi. Donc, voilà. Mais
pendant ce temps, il a un peu ruiné son truc.
Voilà, mais c'était maladif, hein, parce que moi, j'ai pu consulter un peu la correspondance. Il avait un de ses seuls disciples qui s'appelait Julius Freundstadt, et il lui demandait de prêcher la bonne parole partout. Il disait, essayez de trouver dans n'importe quel journal, en Angleterre, en France, si on parle de moi, faites des conférences, tout ça. C'était son émissaire, quoi. Il appelait son apôtre. Voilà. Donc, c'était vraiment maladif. Il était très, très touché par. Donc voilà, comme j'ai dit, on peut noter que le succès de ce livre, donc Les Parerga, au détriment dans un premier temps de son chef-d'œuvre, Le Monde comme volonté et représentation, est en grande partie responsable de quelques malentendus et de l'émoi que suscite la réception de son œuvre et qui font que Schopenhauer est en permanence affublé de ses qualificatifs peu flatteurs. Voilà, misogyne, misanthrope, antisémite, pessimiste. Il y a une part de vérité dans tous, mais on peut montrer que c'est quand même un peu plus compliqué que ça.
C'est trop réducteur.
Voilà, c'est trop réducteur parce que, voilà, mais bon, c'est ce qui contribue, c'est ce qui nous intéresse aussi quand même, parce que c'est ce qui fait qu'il est un peu un thug de malade, quoi. C'est à la fois, voilà, le caractère misanthrope.
Ouais, mais thug au sens un peu connard du terme.
Voilà, oui, je le prends vraiment dans le sens un peu connard, là, je dois avouer. Donc voilà, tout ça pour un bref pour un panorama un peu précis de sa vie. Et voilà, on peut juste noter qu'il meurt en 1860 d'une crise cardiaque et qu'il est resté toute sa vie très solitaire finalement, préférant la compagnie même de son caniche, à qui il a légué la majorité de sa fortune à celle des hommes.
Ça veut dire quelque chose de même quand même. Hein. Ouais. Ça veut dire quelque chose de son amour pour ses frères.
Ouais. Pour ses frères.
Pour ses frères humains.
Ah oui.
Ensuite j'ai griffonné un joli texte sur l'espoir. Ça m'a bien fait marrer. Tout ce seul au fond d'un square. D'abord le rap, moi j'en avais rien à foutre. Je préférais Bachung et le chocolat en poudre. Allongé près d'une brune, à l'heure où quelques fantômes rôdent. La nuit je mens aussi et prends des trains en fraude. D'abord tout gosse, je voulais être super-héros. C'était les années 80, les grands tombaient dans les roues. Ensuite, un métier d'avenir, j'y crois plus trop. Du coup je fais l'idiot, à 28 ans je suis ado. D'abord on a des rêves et le sourire aux lèvres. Un poème de Prévert et des histoires de lièvres. Le sport, le quartier, une fenêtre et des effluves de funk. Plus tard les terrains vagues servent de litière au junk. D'abord le temps, c'est rien qu'une sale enflure. Il a volé l'amour, ma santé, mes chaussures. Ensuite, les années tombent sans laisser de goût. Une montre à ton poignet en guise de corde autour du cou. D'abord, j'ai trouvé un stylo sur un trottoir tard un soir, à l'angle de la rue Gaston Bachelard. Ensuite, j'ai griffonné un joli texte sur l'espoir. Ça m'a bien fait marrer, tout seul au fond d'un square. D'abord, t'entends un mec rapper sur une cassette. T'as 14 piges et le monde le doit coller à la gâchette. Ensuite, tu jettes sur le feu quelques couplets, en attendant que tes démons te traînent jusqu'au couperet. D'abord, la morale, on te la fourre dès le CP. Un boulot dégradant la religion et la télé. Ensuite, tu constates toute l'hypocrisie ambiante. Esclave apatride de façon plus ou moins consciente. D'abord, tu vois de jolies cuisses sous des robes, des yeux, des poitrines et ton âme qui se dérobe. Ensuite, le sexe t'enseigne l'art de respirer. T'ouvres grand les portes menant tout droit à l'empirer. D'abord, la vie, c'est toujours mieux que rien. C'est pas Dieu qui me l'a dit, mais un vieux type au bar du coin. Ensuite, t'apprends qu'une collégienne s'est suicidée. Comprends que je trouve dérisoire tes textes sur ta cité. D'abord, j'ai trouvé un stylo sur un trottoir tard un soir, à l'angle de la rue Gaston Bachelard. Ensuite, j'ai griffonné un joli texte sur l'espoir. Ça m'a bien fait marrer, tout seul au fond d'un square. D'abord, j'ai trouvé un stylo sur un trottoir tard un soir, à l'angle de la rue Gaston Bachelard. Ensuite, j'ai griffonné un joli texte sur l'espoir. Ça m'a bien fait marrer, tout seul au fond d'un square.
À l'écoute de Montaigne Was a Thug, émission de rap, littérature et révolution sur la plus rebelle des radios, Radio Canu. Alors avec aujourd'hui une émission sur un gros loser, non, qui nous a été présenté un peu comme ça, comme tel, hein, pour l'instant quand même. Voilà, nous en sommes à la première partie de sa vie, c'est vrai que sa vie n'a pas été facile. J'ai nommé donc Schopenhauer et c'est Eugène Yonegro, le magnifique Eugène Yonegro, qui vient nous parler aujourd'hui de Schopenhauer.
Voilà, bon, on a fini la première leçon sur voilà les quelques éléments biographiques de Schopenhauer qui montrent effectivement que par à certains égards voilà, il a pas une vie facile et il a eu quelques épisodes un peu de loser effectivement. Bon mais c'est vrai qu'on dirait comme ça que il y a une ambiguïté un petit peu, oui, j'en ai pas parlé mais par exemple Nietzsche à certains moments présente Schopenhauer comme un énorme frustré sexuel et que ça expliquerait un petit peu ça voilà son côté misanthrope, misogyne et tout.
Ce qu'on a pu dire de Nietzsche aussi d'ailleurs.
C'est vrai qu'il aussi a eu un gros échec amoureux effectivement, ouais.
Et que oui.
Non mais voilà, Schopenhauer a eu effectivement des échecs amoureux, mais les biographes s'accordent à dire que voilà, bon, c'est pas très noble, mais c'est-à-dire qu'il n'était pas
très beau.
Frustré sexuel puisqu'il voyait quand même régulièrement des prostituées en fait. C'était sa manière. Bon. En fait, c'est d'ailleurs assez marrant parce que bon ça je l'ai vu qu'une fois. Je me demande si c'est véridique, mais il y a une légende selon laquelle il a failli se battre en duel avec Lord Byron à Venise à cause d'une femme qui fréquentait là-bas et qui était aussi la maîtresse de Byron.
Ah ouais, j'ai entendu.
Donc je l'ai entendu une fois. Ce serait assez cocasse parce qu'en plus Schopenhauer adorait Byron, peut-être pas l'homme, mais en tout cas sa poésie. Ouais. Et bon voilà, enfin ça m'avait fait marrer. Bon, en tout cas, on peut passer maintenant à la deuxième leçon. où on rentre vraiment un peu dans le thème du sujet, hein, parce que là, bon, l'émission d'aujourd'hui, c'était Schopenhauer was a thug, comme d'habitude. Alors voilà, il faut quand même souligner que Schopenhauer est en tout cas un vrai thug dans la philosophie game.
Et ouais, au niveau du clash, tout ça,
voilà.
C'est ça.
Alors oui, c'est vraiment un gros clasheur. Hein. D'ailleurs, Nietzsche lui doit beaucoup à ce niveau-là, hein, parce que bon, on connaît le style incisif de Nietzsche, mais en fait, moi, j'avais lu Nietzsche avant de lire Schopenhauer, et en lisant Schopenhauer, je me suis dit, ah ouais, mais quand même, déjà, lui, ça clashait vraiment.
Il avait un papa dans le game.
Et bon voilà, on va pouvoir lire quelques extraits très très savoureux. Mais bon voilà, d'abord un bref rappel, je l'ai un peu esquissé tout à l'heure, mais Schopenhauer c'est un thug surtout vis-à-vis de ses contemporains directs, en la personne d'abord de Fichte, Schelling et Hegel, les trois représentants par excellence de ce qu'on appelle l'idéalisme allemand. Et ces trois mecs, il les désigne comme les trois sophistes. En permanence, c'est les trois sophistes.
Mais les sophistes, vous pouvez peut-être expliquer un peu ce que c'est.
Bah les sophistes, c'est des gens voilà qui jouent avec des concepts, qui bidouillent et qui embobinent les gens quoi. C'est des Sarkozy.
Ils sont pas à la recherche de la vérité.
Non voilà, ouais, qui sont, ouais, pour eux ils se servent de la philosophie pour faire du fric et pour embobiner les gens.
Exact.
Voilà, c'est vraiment des imposteurs et lui il supporte pas ça.
Je trouve que le parallèle avec Sarkozy est assez
un petit peu, hein,
ouais. Est assez pertinent.
Hein. Ouais.
On voit bien une bonne image du truc.
Bon, en même temps, voilà, Sarkozy n'a pas vocation à
délivrer
à la vérité.
Vérité.
Non, mais
clair.
Bon, voilà, c'est
heureusement.
Un peu la même méthode, oui. Pas remarque avec son, bon, enfin, avec son livre, on pourrait, c'est peut-être la mission qui se donne, mais bon, on n'est pas là pour pas être Sarkozy du tout. Donc, ces trois sophistes, Schopenhauer les accuse avant tout d'avoir complètement ignoré les enseignements de la philosophie kantienne. Parce que Schopenhauer, même s'il le clash à plusieurs reprises, et quand même un vrai admirateur de Kant. Il se veut son continuateur. Mmh. Et en fait, il le reproche surtout d'avoir délaissé la distinction entre la chose en soi et le phénomène de Kant. Bon, je peux faire un bref rappel dessus.
Oui, il faudrait un peu.
La distinction que fait Kant donc dans la critique de la raison pure entre la chose en soi et le phénomène, c'est le fait de dire qu'en fait, moi, en tant que sujet humain, je projette sur les choses les catégories de mon entendement en permanence. Donc ces catégories, c'est la causalité, l'identité. Je perçois les choses selon des catégories, quoi, sous un certain angle, et aussi selon les formes a priori de l'intuition, c'est-à-dire dans l'espace et le temps. Je ne peux pas percevoir un objet autrement que selon des catégories et dans un espace-temps. Et donc voilà, je ne perçois jamais les choses en soi telles qu'elles sont réellement, mais toujours d'un certain point de vue, c'est-à-dire pour soi, on pourrait dire d'une certaine manière. Donc en fait,
ça c'est ce que dit Kant. Donc
voilà, oui, d'une certaine manière, il emploie pas le pour soi, il dit en soi.
D'accord.
Ça c'est moi qui le dis. Mais voilà, c'est pour dire que ma réalité est toujours déjà informée par mon entendement, qui est toujours actif dans ma perception. Parce que c'est, et du coup, j'ai une représentation du monde. Je m'en fais une certaine représentation.
Il n'y a pas un accès direct aux choses.
Voilà. J'en ai qu'un seul accès. Bon, il y a un exemple fameux en philosophie, c'est le cube. Le cube, je peux le voir que sous une seule face. Je pourrais jamais le voir dans son intégralité telle qu'il est. Donc, j'en ai une certaine représentation, et cette représentation est informée au sens de voilà. Avec, on joue sur la forme là par mon entendement et ses catégories. Voilà, donc Schopenhauer les clash à ce titre parce qu'il délaisse cette distinction fondamentale pour lui en disant que voilà, on a un accès
direct aux choses.
Ouais, enfin c'est un peu plus compliqué, mais on peut présenter ça comme ça. Mais aussi, il les clash surtout parce que ce sont tous des tenants d'une philosophie spéculative que Schopenhauer trouve totalement infondée, parce que au lieu de former une théorie et des concepts à partir de l'observation, de l'expérience, de la description des phénomènes. Elle part, en fait, c'est une philosophie spéculative qui part d'une théorie et de concepts préétablis. C'est-à-dire, au lieu de tirer des concepts de l'expérience, des leçons de l'expérience, on a des concepts au préalable et on les projette sur la réalité. C'est presque comme si on adaptait la réalité au concept et à la théorie qu'on a forgée. Donc voilà, il les clash à ces deux titres. Alors, par rapport à ces auteurs, Schopenhauer, je l'ai dit tout à l'heure, a eu Fichte comme prof et dans un premier temps, il a tout à fait apprécié ses cours, mais il a fini par le trouver complètement ronflant. Mais il reconnaît qu'il a du talent. Ensuite, il a lu Schelling et il a trouvé voilà, un peu de mauvaise foi. Il pense qu'il confond beaucoup de choses, notamment des concepts tels que l'intuition intellectuelle. Il pense qu'il les vide complètement de leur substance. Mais bon, c'est surtout Hegel qui l'exècre. Et d'autant plus qu'il a livré un battle catastrophique avec lui à l'université de Berlin. Puisque bon, alors, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut aller encore plus loin dans les détails qui sont encore plus tragiques pour lui. Parce que voilà, Schopenhauer a placé son cours à la même heure. volontairement que le maître de la philosophie de l'époque. Et quand Hegel choisit pour intituler de son cours, alors je l'ai plus vraiment l'intitulé en tête, mais c'est quelque chose de très précis, quelque chose comme voilà, Georg Wilhelm Friedrich Hegel enseignera la réalisation de la raison dans l'histoire contemporaine. Bon voilà,
d'accord.
C'est pas du tout ça, mais c'est un titre aussi précis, voilà. Alors que Schopenhauer, lui, choisit une annonce quelque peu ambitieuse. C'est Arthur Schopenhauer exposera toute la philosophie, c'est-à-dire la théorie de l'essence de l'univers et celle de l'esprit humain. Et le pire, c'est que la durée prévue est de 24 semestres. Et 24 semestres, si mon calcul est bon, ça fait 12 ans.
Ah ouais.
C'est un cours qui est prévu pour durer 12 ans.
Là, on est dans l'ego trip à fond. Le
ah, c'est l'ego trip absolu.
L'hyperbole de l'hyperbole.
Ah ouais, ouais, ouais. Et bon, voilà, la question qu'on peut se poser alors, c'est fait-il preuve de thuguitude ou plutôt de bolossitude suprême ?
Ouais, ben bah, vu étant donné qu'il a eu que 6 voilà, étudiants ouais. qui sont allés assez court, je crois qu'on peut malheureusement.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire
la réponse B.
Ouais, exactement. L'histoire jugera et elle jugera malheureusement très sévèrement parce que voilà, Schopenhauer est contraint d'arrêter son cours au bout de 6 mois. Car il n'a que
ah non réussi à, monsieur je ah, il a quand même réussi à imposer un tel cours et un tel intitulé à l'université donc c'est quand même une victoire en soi
ouais, c'est, oui 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 c'est,
ça,
ouais, ouais,
que,
ouais.
Il a pu se défaire des méandres de la bureaucratie administrative de l'université. Je sais pas si c'était pareil à l'époque.
Oui ouais, c'était peut-être pas tout à fait pareil.
On a qu'à dire que c'est pareil.
Bon, on a qu'à dire que c'est pareil. Oui oui, c'est vrai, c'est une nuance de taille, Bertrand, je suis d'accord avec vous. Bon, et oui, en fait, j'avais fait une erreur. Il est contraint d'arrêter son cours au bout de 6 mois car il n'a que, même pas 6, mais 5 étudiants. Quand, voilà, 5 étudiants, quand celui qu'il appelle le charlatan de la métaphysique, on a plus de 200. Et 200, et c'est pas que des étudiants, hein, c'est aussi des médecins, des hommes politiques, tout le monde se rue dans ses cours, il y en a qui arrivent une heure en avance, c'est, voilà, c'est vraiment le Tupac de l'époque, quoi. Donc, voilà. Et malgré l'échec cuisant, Schopenhauer, c'est quand même, bon, d'une part, Bertrand l'a bien dit, il a réussi à imposer un tel cours à l'université, mais il s'est frotté au maître quand même. Voilà,
ouais, il a osé le
défier.
Quoi.
Il a osé le défier dans une posture tout à fait virile, car à la manière d'un Eminem, on peut dire qu'il a littéralement posé ses couilles sur la table, même si cela n'a pas aussi bien marché que Eminem. Voilà, mais bon. Schopenhauer est déjà un thug dans sa manière de rabaisser, en tout cas, et de clasher le maître de la discipline et les idéalistes allemands de manière générale. Et bon, là, je pourrais vous citer un extrait de d'un petit livre comme ça qui a été publié qui s'appelle L'art de l'insulte qui rassemble un certain nombre d'extraits tout à fait savoureux de Schopenhauer où c'est que des clashs pratiquement sur ouais. plein de thèmes différents.
L'intérêt du livre est vraiment là-dedans, dans le plaisir de trouver les formules qui...
C'est ça, bah, je vais vous en lire un petit extrait, là c'est un de ces fragments sur les idéalistes allemands, donc voilà, Fichte, Hegel et Schelling. Donc, parmi les préjudices que la philosophie universitaire a causé à la vraie philosophie, celle qui se veut sérieuse, il y a surtout l'éviction de la philosophie de Kant par les fanfaronnades des trois sophistes bruyamment répandus. En premier lieu, Fichte, ensuite Schelling, qui tous deux n'étaient pourtant pas dépourvus de talent, enfin et surtout Hegel, ce charlatan balourd et dégoûtant, cet homme pernicieux qui a complètement désorganisé et pourri les têtes de toute une génération.
Ah ouais, ouais, il fait pas,
voilà, ça fait, ouais,
pas dans la dentelle, quoi.
Ça fait un peu, ouais.
Et ça, ces trucs-là, à l'époque, il les écrit dans son petit carnet et
ouais, alors ça,
lit,
c'est beaucoup des manuscrits. Il y en a qui sont un peu publiés dans les... dans les Parerga, là, le livre qui a contribué à le rendre célèbre, mais la plupart restent impubliés.
En fait, il écrit ses clashs tout seul, mais les autres, ils connaissent pas, quoi.
Voilà, non, mais il y a quand même des clashs aussi dans Le Monde comme volonté et représentation. Mais c'est pas autant, mais quand même, il y a des formules bien incisives pour un jeune homme de, voilà, qui a une vingtaine d'années à l'époque.
Puis là, j'imagine qu'il développe aussi d'autres théories, alors que c'est pas des simples insultes.
Voilà, exactement. Voilà. C'est pour ça que ce livre, d'ailleurs, a été intitulé assez justement L'art de l'insulte, parce que c'est assez gratuit, quoi. Alors que dans Le Monde, c'est vraiment, c'est assez argumenté en fait, notamment les passages sur voilà sur Hegel, il essaie de dire très clairement que c'est parce que finalement Kant dont tout le monde hérite hein, finalement a mal conceptualisé, enfin mal défini son concept de raison, c'est-à-dire voilà il dit il peut avoir des formules du style Hegel ce charlatan gna, mais bon c'est pas purement gratuit, il dit
derrière,
pourquoi c'est
il
grave
est costaud.
Voilà bon, voilà, en tout cas, cet extrait que je viens de lire, ça prouve quand même à quel point il exècre Hegel encore plus que les deux autres. Et son style incisif, c'est ce que je disais tout à l'heure, est tout à fait savoureux et il paraît et assez évident qu'il a fortement inspiré son disciple spirituel déchu, qui est en la personne de Friedrich Nietzsche.
Oui.
Et voilà, bon, on peut continuer encore un peu parce que c'est quand même assez savoureux, mais Schopenhauer dit par exemple de Hegel qu'il est un charlatan plat, sans esprit, répugnant, ignorant, dont la philosophie est une colossale mystification, puisqu'à ses yeux, elle constitue le verbiage le plus creux, le galimatia le plus stupide qui ait jamais été entendu du du moins en dehors de maisons de fous.
Mais c'est fou, c'est ces accumulations là, on voit un vrai fou quoi. Le mec, il n'arrive plus à s'arrêter.
Ah, c'est ça, moi, je le sens comme ça. Et c'est voilà, c'est un verbiage qui produit pour lui le plus grand encrassement possible des intelligences. Mais c'est, ouais, c'est vrai, ça s'arrête pas. On dirait voilà l'escalade de la violence un peu entre Booba, Rof. C'est bon.
Il commence et il n'arrive plus à se retenir.
Et il s'arrête pas, ouais. Voilà, et bon, sa critique, comme je l'ai dit, bon, dans l'art de l'insulte, c'est purement gratuit, on l'a dit, mais dans le monde comme volonté de représentation, il y a un fondement philosophique. Mais en fait, sa critique de Hegel n'a pas un fondement seulement philosophique, mais aussi politique, on pourrait dire d'une certaine manière, parce que Schopenhauer accuse aussi beaucoup Hegel d'être un gros faillot, un suceur, on pourrait dire, parce que il l'accuse de prostituer la philosophie à des fins carriéristes, parce que à ses yeux, le charlatan de la métaphysique a pour complice les charlatans de la politique, c'est-à-dire de l'État autoritaire prussien, dont Hegel fait souvent l'éloge. Et c'est aussi, alors d'ailleurs, il y a des thèses à ce propos, petit incursus, qui de certaines personnes qui essaient d'expliquer pourquoi Hegel est si incompréhensible, et à leurs yeux. C'est aussi parce que il y avait les cours de Hegel étaient un peu cryptés parce qu'il y avait des indiques dans tous ces cours, des indiques de l'État prussien allemand qui veillaient à ce que quelqu'un qui était aussi écouté et vénéré aille pas trop contre l'État prussien qui se formait.
Ah ouais.
Donc voilà, ça expliquerait quelque chose parce que c'est vrai que Hegel, bon, c'est horrible, hein, mais bon, c'est des thèses comme ça qui foisonnent un petit
J'espère
peu.
J'espère qu'il n'y en avait pas non plus dans les cours de Schopenhauer, sinon ça veut dire qu'il y avait vraiment très peu d'étudiants aussi parmi les 5 présents. C'est il y avait possible, des indiques
ouais.
aussi.
Ouais, je pense pas. Je pense pas. Mais bon, ce serait marrant, ouais. donc voilà. Et oui, et pour lui aussi, Hegel se soumet aussi aux religieux. Et sa métaphysique reprend, pour Schopenhauer, les grands traits des principes religieux du pays. Alors que lui, européen de cœur, hein, on l'a vu vraiment. D'ailleurs, son père l'a appelé Arthur parce que c'est un prénom qui se prononce de la même façon dans toutes les langues. C'est vraiment. Les biographes expliquent que c'est pour ça. Bon, c'est Arthur, mais voilà, ça s'écrit pareil,
ouais, ça
en tout cas.
Ressemble, en tout cas.
Et donc oui, lui, voilà, il a beaucoup voyagé, il est très ouvert, il adore l'Italie, l'Angleterre, la France, voilà, ça le déplaît pas non plus. Et voilà, donc on peut dire qu'il est européen de cœur grâce à ses voyages et l'éducation de son père, mais voilà, du coup, les grands principes religieux allemands, ils s'en battent les couilles complètement. Et ça l'emmerde qu'on sacrifie la philosophie à ça, quoi. Qu'on l'a... Comment dire qu'on l'atteigne, je trouve pas mon mot là, mais que en gros ce soit un petit peu gâché par ça, terni et rendu plus compliqué à cause de ça.
Et lui, enfin, je sais pas, peut-être que vous allez y venir, mais religieusement, sur le plan religieux, il est où?
Ouais, et ben justement, ça c'est une des grandes originalités et un côté très tuck de Schopenhauer, c'est une philosophie qui est résolument athée. Il y a aucune référence à Dieu nulle part. Bon, mais ça je vais l'expliquer parce que c'est-à-dire que bon, ça, c'est, on peut le comprendre à partir du titre. Le monde comme volonté et représentation, il y a vraiment toute la clé de sa philosophie dedans. C'est-à-dire que il n'y a pas de Dieu, mais il y a une force, un principe du monde qui est la volonté. Et on va l'expliquer plus tard. Mais du coup, c'est pas un Dieu du tout conscient, un vieux barbu dans le ciel comme ça qui donne des ordres moraux. C'est vraiment, il y a une force qui est présente partout et en chaque être. C'est un peu du panthéisme, on pourrait dire d'une certaine manière. Dieu, s'il y a un Dieu, il est partout. C'est la volonté.
Et c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus totalement matérialiste.
Il récuse le matérialisme aussi. Voilà, il récuse autant l'idéalisme que le matérialisme. Bon, de toute façon, il clash tout le monde. Voilà, mais bon, pour revenir à ce que je disais sur effectivement les principes religieux et traditionnels, par rapport à ça, le côté pompeux et insupportable de ces penseurs allemands, inféodés aux grands principes religieux et politiques, le conduit à clasher, en fait, ce qui est assez marrant, la nation allemande tout entière. Et là, j'ai un extrait qui est vraiment assez drôle, toujours dans l'art de l'insulte, c'est... le fragment qui s'appelle « Les Allemands, un peuple de lourdeaux ». Donc, à moins que Bertrand veuille lire.
Si vous voulez.
Comme vous voulez. Allez, c'est là.
Donc, les Allemands, un peuple de lourdeaux. Le véritable caractère national des Allemands est la lourdeur. Elle éclate dans leurs démarches, leurs faits et gestes, leur langage, leurs propos, leurs récits, leur compréhension et leurs pensées, mais surtout dans le style de leur écriture. Le plaisir qu'ils prennent à enchevêtrer des phrases interminables, pesantes, pour lesquelles la mémoire toute seule met 5 longues minutes à apprendre la leçon qu'on lui a infligée, jusqu'à ce qu'au bout de la période enfin terminée, l'entendement conclue et que les énigmes soient résolues. Ils se complaisent en cela. Et si en plus il est possible d'y ajouter de la préciosité, de l'emphase et des solennités, l'auteur en est grisé. Mais que le ciel arme le lecteur de patience.
Voilà, donc c'est marrant parce que là ils parlent pas que des idéalistes, c'est vraiment les Allemands d'une manière générale, ils savent pas parler quoi, ils sont chiants, ils sont obligés de faire des longues phrases, c'est un verbiage pas possible. Et alors là, il y a un autre extrait très court qui est vraiment, mais enfin moi qui m'a fait mourir de rire, c'est ça arrive juste après, c'est la nation allemande et la honte d'en faire partie. Alors trois lignes. Si je venais à mourir, je fais ici l'aveu qui suit. Je méprise la nation allemande pour son immense bêtise et j'ai honte d'en faire partie. Voilà, voilà, ça clash dur.
Ouais, mais d'un autre côté,
peuple, hein.
Pour un mec qui, voilà, dès 9 ans a voyagé, etc., etc., je trouve que ça a une certaine portée, quoi. C'est pas comme si le mec avait vécu qu'en Allemagne et il aimait pas les Allemands, tu vois. Il a vu d'autres choses, ouais. Je sais pas, moi.
Oui.
Pourquoi pas, quoi.
Ouais, pourquoi pas. Puis, bon, on peut noter que Nietzsche parlait des Allemands à peu près en ces termes aussi, hein. D'ailleurs, Nietzsche disait de Schopenhauer que c'était à moitié un Anglais, à moitié un Français. C'est marrant. Mais ouais, il y a des moments où il clash aussi les Français en disant notamment que c'est une langue ridicule, que c'est des accents toniques, plats et tout, c'est stupide.
Et je crois qu'il disait des Allemands, des Français, quelque chose comme l'Afrique a ses singes et l'Europe a les Français. Comme si
ah oui, oui, oui. Ah ouais, mais je pense qu'on peut peut-être le retrouver d'ailleurs. Bon. Mais enfin. Ah, on m'annonce que. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, c'est dans la quatrième couverture. Les autres continents ont des singes, l'Europe a des Français. Ceci compense cela. Voilà, donc tout le monde en prend pour son grade, quoi. Et c'est oui, c'est en cela, ça fait beaucoup penser à Nietzsche, hein, d'ailleurs. Bon, alors voilà, tout ça pour dire que déjà, c'est le voilà un peu la conclusion de la première leçon. C'est déjà un thug dans la philosophie de game, un vrai clasheur. On peut dire comme ça, oui, ça clash.
Oui,
donc
bah
il
oui.
s'en prend à ses sophistes, notamment parce qu'il prostitue la philosophie, mais aussi parce qu'il méprise le plus grand penseur de l'humanité après lui, Emmanuel Kant. Et bon, par contre, ce qui est remarquable, avant de passer à la troisième leçon, c'est que pourtant Schopenhauer clash aussi Kant, même s'il est son maître à penser. Parce que, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reconnaît qu'avec Platon et les Védas, les Upanishads, donc ça c'est les grands écrits hindous, bouddhistes, Kant est son influence principale. Il élabore une longue critique de la philosophie kantienne en annexe du Monde. C'est-à-dire que voilà, à la fin du Monde comme représentation, il y a, je sais pas, peut-être 300 pages qui sont consacrées à une critique de la philosophie kantienne. Mmh. Très précise avec des citations.
Qui, j'imagine, a à voir avec ce qu'il a dit avant. C'est pas comme un
livre intercalé. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, elle est. Oui, elle est présente partout en substance de toute façon,
bah oui,
notamment dans le premier tome du premier livre du Monde comme volonté et représentation. Il y a tout un chapitre sur la réflexion et là il essaie vraiment de montrer à quel point Kant a mal défini le concept de raison et que ça fait beaucoup de mal en fait à la philosophie contemporaine. Et en fait justement, si Schopenhauer clash Kant, c'est justement parce qu'il le tient pour responsable de ce qu'il appelle l'hégélianerie ambiante. Il pense que même si c'est le plus grand penseur de tous les temps, il a fait quand même beaucoup de mal, en définissant notamment mal son concept de raison, à la philosophie contemporaine et a d'une certaine manière engendré des Hegel, des Schelling, des Fichte.
Vous pouvez nous expliquer en quoi peut-être qu'il a mal défini le concept de raison, si c'est faisable en même temps
Oui, alors ben, en fait, Kant. Il tient la raison pour la faculté de l'inconditionné. C'est-à-dire que, en fait, pour Schopenhauer, la raison, c'est tout simple, c'est la faculté de former des concepts abstraits.
D'accord.
Et ça, c'est ce que Kant appelle l'entendement, lui. Et pour Schopenhauer, il dit non, l'entendement, c'est juste le fait d'avoir une perception déjà informée par les catégories, comme il le dit lui. Ça, c'est l'entendement sert qu'à ça. Mais il ne produit pas des concepts. C'est la raison qui produit des concepts à partir des leçons de l'intuition et de l'expérience. Et Kant, pour lui, la raison, c'est vraiment plutôt la faculté de penser ce qui n'est pas objet d'expérience, c'est-à-dire Dieu,
d'accord,
l'âme,
ouais,
le monde. C'est vraiment, la raison, c'est la faculté métaphysique, en fait. C'est ce qui permet d'aller au-delà de l'expérience. Et Schopenhauer dit, mais non, ça, c'est de la pure spéculation. Pourquoi vous, maître Emmanuel Kant, vous définissez la raison comme ça? Parce que du coup, si on commence à dire qu'il y a une faculté de l'inconditionné, ça va engendrer un Hegel qui peut dire que on peut penser la réalisation de la raison dans l'histoire, et voilà, ça va faire du gros n'importe quoi.
C'est ça qu'il appelle en fait spéculation. C'est toutes ces théories sur l'histoire, entre autres, les théories, la philosophie historique de Hegel qui voit dans l'histoire, voilà, qui voit une fin à l'histoire, qui prétend savoir comment avance l'histoire, en fait.
Exactement. Et voilà, oui, lui, il est très étonné, en fait, par cette espèce de raccourci que fait
Moi
Kant.
Moi aussi.
Notamment parce que Kant, dans la critique de la raison pure, a fait justement une critique de la raison pure et a essayé de démonter toutes les prétentions à connaître l'inconditionné. Mais justement, ce que dit Kant, c'est qu'on, même si on peut pas connaître l'inconditionné, on peut le penser. Mais pour Schopenhauer, non, la raison, c'est juste former des concepts abstraits à partir des leçons de l'expérience. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, donc, il a mal défini.
Bravo, je tiens à vous féliciter pour cette explication qui, pour moi, je trouvais très claire.
Ah bon, merci beaucoup. Je sais pas si elle est bonne. On pourrait me contester, je pense. Peut-être qu'il y a des
on s'en
raccourcis.
Fout,
mais bon,
s'ils veulent contester, les gens qui contestent.
Allez, mais appelez, tweetez. Alors ouais, non, mais un autre clash par rapport à Kant, qui est un peu lié au premier, c'est dans Le Fondement de la Morale. Je sais pas si vous connaissez, c'est un livre qui est assez connu quand même. Donc c'est un, mais y a pas de problème. Il clash aussi méchamment la philosophie morale de Kant, parce que d'ailleurs ça lui vaudra de se faire à son tour clasher par la Société royale des sciences du Danemark. Et cette Société royale, c'est celle qui avait en fait organisé le concours pour lequel Schopenhauer avait écrit le livre.
D'accord.
Parce que voilà, ça avait posé une question du style le fondement de la morale. Qu'est-ce que, enfin bon, j'ai plus la question en tête, mais en gros c'était sur le fondement de la morale. Et il y avait bon une récompense à la clé. Ça se faisait à l'époque. Et Schopenhauer en avait fait à l'époque pour la Société royale de Norvège, cette fois, où il avait reçu un prix pour son essai sur le libre arbitre. Mais là, ça se passe beaucoup plus mal avec Le Fondement de la Morale, parce que voilà, malgré la qualité du livre, qui est reconnu à demi-mot, il n'a pas été récompensé parce qu'on a estimé qu'il était bien prétentieux, en fait, de parler de Kant en ces termes, quoi. Donc voilà, ça disait, le compte-rendu de la Société royale, c'était, mais ce jeune homme est bien prétentieux de parler de Kant en ces termes, ouais. Pour qui il se prend, quoi.
C'est quelque chose qu'on trouve encore beaucoup, je trouve, dans la philosophie game d'aujourd'hui, quoi.
Un petit peu, ouais.
De ceux qui veut remettre en question quoi, qui se prend lui pour qui, pour remettre en question, j'en sais rien, tu vois.
C'est vrai. Mais bon, en tout cas, dans Ce Fondement de la Morale, il y a des passages vraiment très drôles parce que, notamment, bon, vous savez, l'impératif catégorique de Kant, c'est, agis de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle. Et Schopenhauer dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il dit, mais Le Fondement de la Morale, est-ce que on va penser à ça, mettons, si on voit un fait divers sordide dans le Times où, je sais pas, une mère a trucidé ses enfants. Et Schopenhauer écrit littéralement, mais est-ce que celui qui voit ça, il va se dire, oh non, comment peut-on vouloir qu'une telle loi soit érigée en maxime universelle de mon action? Et c'est assez marrant parce qu'il dit, une telle réaction, ce serait soit la réaction d'un fou, soit la réaction d'un gros pédant de philosophie. Et il dit, non, moi, quand je vois ça, je réagis juste en me disant, mais comment peut-on être à ce point sans pitié? Voilà, il est très pragmatique d'une certaine manière. Enfin, il dit, faut pas chercher du conceptuel partout. Il y a des choses qui sont vraiment concrètes, quoi. Bon, il y a aussi un autre passage où il dit, je sais plus, il cite un passage de Kant assez longuement, et la conclusion, c'est juste, Kant a écrit ça à 70 ans, et pourtant, il n'était même pas sénile. Ou alors, juste un dernier, c'est assez drôle, c'est à propos de l'idée même de fin en soi. Parce que, voilà, Kant emploie beaucoup cette idée de fin en soi, en disant, il faut que, agit toujours comme si autrui, considère autrui comme s'il était toujours une fin, jamais comme un moyen. Bon, j'ai plus vraiment l'idée en tête, mais voilà. Pour lui, la fin en soi, c'est une contradiction dans les termes, parce qu'une fin, c'est toujours pour quelque chose. Ça, c'est un but par définition. Donc, c'est la satisfaction d'un désir, par exemple. Donc, c'est une fin pour ce désir-là. Bon, mais voilà, à propos de l'idée même de fin en soi, il écrit, autant vaut dire ami en soi, ennemi en soi, oncle en soi, nord-ouest en soi, dessus ou dessous en soi, etc. Pour dire que ça veut rien dire. Donc voilà. Mais s'il en veut à Kant, faut le rappeler, c'est apparemment surtout parce qu'il a permis Hegel, finalement. C'est à cause de son concept vide de raison qu'il s'entend sous la plume des trois sophistes comme conscience de Dieu. Et par rapport à sa conscience de Dieu, on peut rappeler la question que vous avez soulevée, monsieur Tug, qui effectivement, c'est très original pour l'époque, ça fait partie de cette tugitude, c'est à propos de Dieu, il y a quand même une grande tugitude dans le fait qu'il propose une philosophie qui est résolument athée et ce même dans un état autoritaire très très religieux, quoi. Et bon, en fait, peut-être que son insuccès l'a servi à ce niveau-là, j'y avais pas pensé, mais parce que peut-être que s'il avait rencontré le succès, son livre aurait été interdit tout de suite, en fait.
Ouais.
Parce qu'un livre athée à cette époque, ça passait pas, hein, je pense. C'est peut-être à vérifier, mais bon. Voilà. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, bon, on voit qu'il y a quand même un côté très original, hein. Il se défait de ses idéalistes, il propose une philosophie sans Dieu, il clash Kant. Mais en fait, il faut noter qu'il s'en prend à l'ensemble de la philosophie occidentale depuis Descartes, d'une certaine manière. Et ça s'explique notamment parce qu'il introduit un mode de pensée oriental dans la philosophie. Et c'est le premier à le faire. c'est le bouddhisme, les Upanishads et les Védas. Personne connaissait, c'est lui qui l'a introduit, enfin personne.
Ouais, il est très tombé sur ça, comment vous
voilà.
Savez un peu,
voilà. Je sais pas vraiment comment il est tombé dessus.
Ouais, hasard.
Mais je crois que ce qui est le plus étonnant, c'est que il avait des intuitions sur le nirvana, tout ça, les renaissances successives. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais pour les bouddhistes, la vie, c'est une sorte de malédiction. On est là parce qu'on
essaye de
s'améliorer. On s'est réincarné. Ouais. Et le but, en fait, c'est d'arriver à disparaître vraiment. Et d'atteindre le nirvana. Nirvana qui veut dire néant, d'ailleurs, en sanskrit. Donc, voilà. C'est vraiment une des grandes originalités de Schopenhauer qui lui permet de réfuter toute la philosophie occidentale. C'est l'introduction du bouddhisme et d'un mode de pensée oriental. Et dans la préface, du monde comme volonté et représentation, je l'ai dit tout à l'heure, mais là j'ai la phrase exacte, c'est « Ma pensée n'aurait pas été possible sans Kant, Platon et les Védas. » Donc voilà, et tout ça, ça le conduit à réfuter en même temps toute supériorité de nature de l'être humain sur l'animal. Parce que l'animal est également doué d'un entendement pour lui, et de manière générale, Schopenhauer essaie de naturaliser l'esprit plutôt que de spiritualiser la nature, d'une certaine manière.
Ouais.
Et en cela, Freud, par exemple, a été énormément influencé par Schopenhauer à ce niveau-là. Et voilà, et surtout, en fait, ça le conduit... On faudra en reparler après, parce qu'il faudra vraiment essayer de faire un gros résumé de tout le système philosophique, mais ça le conduit à réfuter, bon, j'emploie un mot un peu pédant, mais toute consistance ontologique de l'individu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'individu, parce que nous sommes tous... la volonté avec un grand V. Nous sommes tous des mini-volontés qui participent tous de la volonté avec un grand V d'une manière générale. Donc voilà, en fait, on est vraiment bien loin du Descartes qui mettait l'ensemble du monde en doute, par exemple, ou qui mettait l'individu au premier plan. Parce qu'il n'y a pas d'individu en dehors du monde phénoménal, et nous participons tous d'une même chose qui est en nous, vous comme moi, et cette chose. Bon, j'en reparlerai. Mais bon, voilà, conclusion sur cette partie, le tug dans la philosophie game. Tout ça l'amène bien sûr à faire preuve de ce qu'on appellerait un ego trip, parce que bon, on a des phrases dans ces fragments posthumes du style l'humanité a appris de moi des choses qu'elle n'oubliera jamais, ou alors mais qui suis-je, je suis celui qui a écrit le monde comme volonté et représentation et apporté au vaste problème de l'existence une solution qui va peut-être rendre obsolètes les précédentes, ou du moins donner du grain à moudre aux penseurs des siècles à venir. Voilà l'être que je suis. Et qu'est-ce qui pourrait bien venir le contredire dans les années qui lui restent à respirer? Voilà.
Punchline.
Ouais, ouais, ça,
on a de
l'ego
trip, on a tout ce qu'il faut.
Ouais.
Le nez dans mes affaires, mon rap prend de la protéine, soulève là les haltères, je fais des dons d'urine, sur la France entière se désaltère, l'Afrique c'est la terre, à leur santé je déplatère, portuaire et la rivasse, le paysage est mortuaire, en banlieue mesdames messieurs, on fait dans la camel sportswear, on me duplique au marché Malik, me clique sur internet, ce sont c'est ma manière de dire, d'aller niquer ta mère, DMC en millions de pixels, le soir sur XXL, t'es assis négro, ça va du 4X au 6XL, tu voudrais nous chier dessus. Devenir officiel, des grosses merdes se coupent en deux et c'est sans ton string ficelle. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, te déterraciner, te décalciner. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déterraciner, te décalciner, ok. Un bon joint du 9-2, Diac, Malifido et Brusqué. Je compose un numéro, glisse entre une paire de cuisses musclées. Ici on est tranquille, loin de tout parasite. Baby, fais-moi la bise, puis suce-moi la bite. Ok, je suis vulgaire, les bourgeois chopent des ulcères. Quand ils écoutent, ce qui sort de ma bouche, c'est le son dangereux du terre-terre. Selon à fond, intérieur cuir noir, boîte séquentielle. Pour écrire, il me faut du chisnit, la drogue m'est essentielle. On est venu cracher notre haine, faut que la SDRM haute scène, ça vend du seum, car c'est le cash qu'elles aiment. J'étais là bien avant Break Street, sans limite, comme dans GTA. Je représente la banlieue comme un Greg Fried. Du beef, rien ne change à part mon bling bling. Au B, je suis dans le coin VIP, du coin VIP. J'pose moi une cut sur les coups, clac clac clac. trop vendu. C'est pour les loups, les louves, les oufs et les nous. Veux pas rivaliser, on va te dévaliser. Te déraciner, te décalciner. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déraciner, te décalciner. Ok, ok, fumer mes confrères, je n'ai que ça à faire. Les humilier, balayer, ravager, tabasser, voyager en classe à faire. Toute l'équipe à Sarko, je la ferai bien tapiner. Au micro, je suis un des négros les plus raffinés. Je fais du son à la Carcobain, ils sont à fond dans la mer Coben. Pour toi, c'est fini de m'entailler, Kini, je te baisse. Les clochards vendent des copies de mon nouvel opus. Prennent le bus pour aller s'user au marché, au bus. C'est pour les enfants terribles qui ne font aucun effort. Au parcours comme une queue de négro, long et pénible. Que le prochain fils de lâche qui veut me clash vienne me le dire en face. P2OP, arme, drogue et cash, personne ne le remplace. Veux pas rivaliser, on va te dévaliser. Te déraciner, te décalciner. Tu peux pas rivaliser, on va te dévaliser, man. Te déraciner, te décalciner. Ok, ok. Te déraciner, te décalciner, je te vois.